Pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, réussir sa transformation numérique.
Quand je vois le drone arriver en haut, là, puis se géolocaliser seul, lui prend les photos, puis il est en mesure de nous donner les quantités par essence qu'on a dans chacun de nos secteurs de récolte.
La technologie se trouve parfois là où on l'attend le moins. Il y a une coopérative forestière qui est passée à l'ère 4.0. On en discute avec son DG et le spécialiste de la transformation numérique, le président de Talsom, Olivier Laquinte. Je m'appelle Laurent Therrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Si votre entreprise est dans une transformation importante qui implique la technologie, il y a de bonnes chances pour que ce soit un projet assez critique dans votre entreprise parce que les récompenses en cas de succès sont immenses, mais les conséquences en cas d'échec peuvent être assez dramatiques. Il n'y a aucune grande transformation qui est sans risque, bien évidemment, mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se donner des conseils pour éviter de tomber dans certains pièges et profiter des avantages du numérique. Avec nous, vous allez voir deux invités qui sont très complémentaires. Marc-André Despins, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Marc-André, tu es le directeur général de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice. Juste pour qu'on replace le Haut-Saint-Maurice sur la carte, là, c'est à partir de Latuc jusqu'à Obidjouane, c'est ça?
Exactement. C'est Latuc jusqu'à Wamontachi en haut. C'est le plus grand, je crois, la plus grande ville au Québec, 30 000 km².
Oui, c'est ça. Tout un territoire, effectivement. Olivier Laquinte, salut.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va encore super bien, merci. Tu es le fondateur et le président de Talsom. Tu es consultant. Tu aides des clients, justement, à planifier et surtout, j'imagine, à réussir leur transformation numérique. Disons que tu baignes là-dedans à tous les jours. Je le disais très complémentaire parce que d'un côté, on a Marc-André qui vient d'une industrie qu'on n'associe pas nécessairement au numérique, mais vous avez fait des choses extraordinaires à la coopérative forestière. Tu vas nous raconter ça dans un instant. Olivier, parce que, bon, ben, c'est votre job de faire des transformations numériques et que tu vas être de bons conseils. Marc-André, on passe avec toi si tu veux bien. Vous avez donc entamé une grande transformation numérique il y a quelques années. Puis, disons qu'en termes de technologie, vous partiez de loin quand même.
Bien, il faut savoir, le secteur forestier est somme toute là, le milieu de secteur d'activité le plus traditionnel là, qu'on a au Québec. Donc, nous, on n'a pas de connectivité Internet en forêt. Donc, déjà un élément qui est somme toute là, problématique. Puis, quand je dis on partait de loin, nous, on a fait un diagnostic important dans notre organisation. Là, il y a maintenant, là, en 2017-2018, puisqu'on s'est fait accompagner là, par une firme des spécialistes dans le secteur forestier, donc la FQCF, on avait des consultants avec nous. Moi, j'aime dire qu'on a fait un virage 2.0 pour aller à 4.0. Mm-hmm. Puis, je m'explique pourquoi le 2.0. Nous, un exemple, les payes étaient faites avec des tachographes, des machines qu'on colle en dessous là, des machines, puis le mouvement va être le temps qu'on va payer la machine. Donc, on partait quand même de loin par rapport à différents processus. Puis là, c'est certain que là, ça a été l'étape avec les GPS, la géolocalisation, les nouveaux processus, les drones. Puis je vais expliquer ça plus en détail, mais c'est très, très effervescent. C'est un secteur là, qui bouillonne présentement là, au niveau technologique. Là.
Pourquoi est-ce que cette transformation-là, Marc-André, était devenue nécessaire? En gros, ma question, c'est si vous ne vous étiez pas transformé, qu'est-ce qui se serait passé?
Ben moi, je pense on a eu une planification stratégique. Nous, on est une coopérative de travailleurs. Quand on regarde avant le modèle d'affaires, les grosses entreprises mangeaient les petites. Moi, on a eu la réflexion, nous, de se dire les entreprises qui sont lentes vont se faire manger par les entreprises qui sont vite. Puis quand je dis vite, c'est tout le processus administratif, avoir les bonnes données en temps réel, la prise de décision sur du qualitatif, tout du factuel. Donc, monter une donnée, avoir des hypothèses, des historiques, un big data, minimiser le risque d'erreur, donner des tâches à valeur ajoutée. Écoute, la liste, là, je peux en parler jusqu'à demain matin, elle était grande, mais en même temps, elle ne venait pas sans défi pour mettre ça en place, là, tous ces changements-là.
Puis avant qu'on aille à Olivier qui va nous donner une vue d'ensemble de comment l'industrie se transforme puis à quel point les entreprises réussissent ou non leur transformation, moi, il y a une petite anecdote que tu nous as racontée en pré-entrevue que j'aimerais ça que tu nous racontes. quand vous aviez besoin de données, il y a un gars qui partait avec son calepin dans le bois pendant quelques jours.
Exact. Donc, quand c'était un exemple des prises d'inventaire, on avait une équipe de travail qui partait. Il faut savoir, la santé et sécurité, très important dans notre milieu éloigné. Donc, on peut croiser là, des bébites sauvages. Puis donc, on avait des jeunes qui étaient attitrés à ça. Puis là, il y a quand même un risque d'erreur à prendre des données sur un calepin, de ramener ça au bureau. Quelqu'un met ça dans un tablier Excel. L'Excel s'en va au service de la paye. Après ça, c'est traité dans un système comptable. C'est juste à vous le dire, j'étais soufflé. Donc, le processus était très, très long. Maintenant, avec le Bluetooth, les gens arrivent dans le camp Internet le soir, dans le camp forestier. Ça se télécharge directement dans nos bases de données. Donc, le transfert d'informations se fait là, pas en temps réel, mais dès qu'il y a une connectivité à Internet. Là. Donc, oui, c'est vraiment plaisant. Là.
Bon, ben Marc-André, on te retrouve dans quelques secondes. Je veux que tu nous parles de ce que vous avez fait, justement, puis de la technologie que vous avez mis en place. Olivier, est-ce que le cas de Marc-André puis de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice, c'est un cas typique, c'est-à-dire une business dans une industrie qui est un peu, qui est traditionnelle, il dit lui-même. Puis à un certain point, bien, ça s'accélère d'autant plus vite qu'on n'a pas le choix de se transformer.
Bien, effectivement, c'est typique, mais je trouve ça vraiment inspirant qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je trouve que vous avez eu d'ailleurs vraiment une super bonne idée d'inviter Marc-André, parce que quand on pense aux transformations numériques, souvent il y a énormément d'emphase qui est mis au niveau du commercial. Quand on parle de transformation numérique, les gens ils vont se dire hey, commerce électronique. Puis maintenant on a tellement parlé d'intelligence artificielle que les gens ils vont dire ok, il y a de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, la plupart des transformations numériques, c'est beaucoup au niveau des systèmes opérationnels, des processus de l'entreprise, et on le perd un petit peu de vue, ça. Parce que des fois, oui, on parle de la productivité, mais je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est là, bien souvent, que les organisations vont aller chercher le plus de bénéfices, mais c'est sûr que c'est moins sexy un petit peu que les sites web et que le volet transactionnel.
Ouais.
Donc, moins sexy et souvent un petit peu plus difficile, un petit peu plus long aussi, mais hyper important, parce que je pense que ce que Marc-André disait par rapport à la rapidité, c'est vraiment vrai. Il faut absolument que les organisations se placent dans une situation où elles sont capables de capitaliser sur les nouvelles technologies. Parce que oui, l'intelligence artificielle va donner des résultats, mais pour avoir accès à l'intelligence artificielle, ça prend des données. Puis, pour être capable d'avoir des données, ça t'en prend une grande quantité. Et pour être capable d'avoir ces données-là, il faut que tu mettes en place des systèmes opérationnels, on va appeler ça numériser ton organisation, à travers laquelle tu vas y recueillir ces données-là, puis là, après ça, tu vas être capable de capitaliser là-dessus.
Mm-hmm.
Donc, longue réponse, oui, en quelque part, c'est quand même, on le voit souvent, là, des organisations arrivent puis sont comme un petit peu à la dernière minute, puis ils disent, hey, là, il faut que je me transforme. Ils se lancent dans des projets. Mais je pense que là où il y a une belle particularité par rapport à la coopérative forestière, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont pris. Puis Marc-André, tu me corrigeras si je me trompe, mais je suis pas sûr qu'il était comme rendu minuit moins une. Là, je pense qu'il y a eu un bel exercice de planification puis de réflexion qui ont fait qu'ils ont pris les bonnes actions au bon moment. Marc-André, je ne sais pas si tu me diras.
C'est très important, comme tu le mentionnes. Puis nous, un des enjeux qu'on a, on a une forme juridique particulière. C'est une coopérative de travailleurs. Donc, c'est nous autres, le plus important, c'est notre capital humain. Donc, quand ces changements-là ont eu lieu, il y a eu une réticence quand même, tu sais, de démontrer aux gens la valeur ajoutée. Des fois, une tâche te prend plus de temps pendant un mois de temps. Puis là, Caroline, pourquoi on a fait ce changement-là? Ouais, mais un mois après, ça t'en prend la moitié du temps. Puis là, les tâches que tu fais sont à valeur ajoutée côté physique. Tu sais, nous, on a quand même beaucoup de marches en forêt, tout ça, la géolocalisation, plusieurs avantages, bénéfices. Puis je reviens aussi, Olivier, un des éléments importants, les données, d'en avoir suffisamment pour être en mesure d'avoir un historique puis vraiment orienter nos décisions pour en tirer là, une plus-value. Là.
Marc-André, donne-nous des exemples concrets. Là. Vous étiez une coopérative forestière, on va dire traditionnelle. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle dans l'industrie 4.0. Tout ça, c'est des beaux buzzwords, c'est le fun. Là. Concrètement, sur le terrain, là, il s'est passé quoi de différent? Il y a des GPS où? Il y a des données qui se prennent où? Vous faites quoi avec? Raconte-nous votre espèce de portrait techno de la coopérative forestière?
Je vais y aller crescendo. J'ai trois exemples parce que nous, on avait quand même la philosophie de petit longtemps constant. On ne voulait pas non plus révolutionner. On avait un plan de match. On savait d'où on partait. On avait notre savoir-faire dans ça. Oui, on a été accompagné, mais on voulait quand même prendre les marches. On appelait ça manger l'éléphant une bouchée à la fois. Mm-hmm. Donc, un exemple, tu sais, nous, c'est important, on est partenaire dans une usine de sciage. On a fait calibrer toutes les têtes de nos multifonctionnels. Donc, calibrer, c'est quoi? C'est quand la batteuse coupait l'arbre, elle avait déjà un profil de l'arbre, l'essence, le nombre de mètres cubes qu'il va avoir dedans. Donc, on avait des données pour l'usine. Donc, profiter du marché, un avantage économique, connaître nos inventaires. Il y avait beaucoup de logistique aussi dans ça, des problèmes qui étaient atténués. Ça a été un des premiers enjeux qu'on a pu régler, nos inventaires, qui représentent d'importants montants qui dorment en forêt. Ensuite, la géolocalisation des machines. Comment qu'on est en mesure? Il faut savoir, au Québec, on opère sur des terres publiques. Donc, il y a énormément de lois et règlements en vigueur. Donc, l'espacement des sentiers. Il y a eu plusieurs choses qu'on est en mesure de déjà se conformer avec ces nouveaux outils-là. Puis ça, c'était très important parce qu'une des valeurs importantes dans notre entreprise, c'est de léguer un patrimoine forestier aux générations futures. Donc, la nouvelle technologie nous a permis d'être plus performants, d'être en lien avec les lois et règlements. Là, je vous donne la troisième étape où ce que moi, pour moi, là, je veux dire que je la trouve la plus, excusez le terme, la plus pétée, la plus wild. On a en fait l'acquisition d'un drone. Drone, là, c'est, dans le fond, là, la géomatique se fait au bureau. Là, il n'y a même pas besoin d'un pilote qui vole avec. Il a déjà son plan de vol préétabli. Il prend des photos des empilements de bois. Donc, avant, on avait un mesureur qui mesurait le bois. Lui prend les photos, puis il est en mesure de nous donner les quantités par essence qu'on a dans chacun de nos secteurs de récolte. Donc, ça, c'est un avancé là, pour moi. Là, quand je vois le drone arriver en haut là, puis se géolocaliser seul, encore là, on a une contrainte. On est au Québec. On a des hivers. J'imagine qu'à Montréal, elle vous frappe comme nous autres ici, là, plus dans le nord. On ne peut pas utiliser cet outil-là l'hiver. Mais encore là, on va essayer de trouver d'autres façons de faire. Mais tu sais, je dirais plein de techniciens, des emplois étudiants l'été, qu'on avait de la difficulté à trouver notre main-d'œuvre, que juste avec un outil, deux, trois personnes de bien habileté.
Tout d'un coup, ça donne le goût là, d'aller travailler dans le coopératif forestier si tu es celui qui s'occupe du drone.
Ah, ben oui, non, mais écoute, c'est vraiment. Puis les gens qui le font, je trouve qu'ils arrivent aussi avec une valeur ajoutée. Mm-hmm. Puis, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Bien, ces nouveaux outils technologiques-là nous permettent d'être attractifs avec la nouvelle main-d'œuvre sur le marché. Ouais. Beaucoup de joystick, beaucoup de technologie. Donc, je suis très, très, très content.
Bon, fait que des données sur l'arbre dès la coupe, des machines géolocalisées par GPS, des drones et tout ça, ce sont de bons exemples. Olivier, ce ne sont pas toutes les transformations numériques qui se passent comme ça. Il y a tellement d'histoires d'horreur d'entreprises qui ont essayé d'établir des ERP puis d'autres systèmes de gestion informatisés qui sont plantés. Qu'est-ce que ça prend pour éviter le pire dans ces situations-là?
Je dirais que ça prend deux choses, là, à la base. C'est qu'il faut éviter de tourner les coins ronds en début de transformation, en début de projet. Souvent, là, quand tu vas avoir des causes de fiasco, c'est parce que les gens sont allés trop rapidement à identifier ou à choisir les technologies qu'ils voulaient implanter. Et ces technologies-là ne sont pas toujours adaptées à leur contexte ou adaptées à leur entreprise. Puis quand je parle de technologie, il y a la technologie comme telle, mais aussi il y a même les intégrateurs. Donc, qui vont être les équipes qui vont venir dans les organisations et implanter ces nouvelles technologies-là? Souvent des coins ronds qui se font en amont, qui font en sorte qu'après ça, il y a des investissements qui sont perdus. Ces coins-là vont être parce qu'on veut moins dépenser en début de projet, parce qu'on connaît un fournisseur, puis on dit « Ah ben oui, ça fait comme 10-15 ans que je travaille avec toi, tu vas être capable de m'accompagner ». Ce n'est pas nécessairement le cas. Les entreprises ont des besoins technologiques différents en fonction de leur maturité, en fonction de leur taille. Donc, il faut être capable de le reconnaître. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, elle, est honnêtement encore plus importante et encore la plus fréquente, c'est de ne pas mettre assez d'emphase sur les gens. Marc-André le disait tantôt, le plus important, c'est d'être capable de faire un bon accompagnement des gens quand on est en train de faire ça, quand on est en train d'exécuter. Donc, la gestion du changement est hyper importante. Parce que la technologie, on sera toujours capable de la faire fonctionner. Les organisations peuvent engager plus de développeurs, peuvent changer de technologie, mais les gens, c'est les gens. Puis, il y a un rythme d'acceptation, d'adaptation à des nouvelles technologies. Il faut respecter ce rythme-là et il faut être capable d'accompagner correctement les gens. C'est quand on est capable de faire, à la base, ces deux éléments-là, là, passer assez de temps à faire sa planification, bien prendre en considération les gens qu'on a, puis comment est-ce qu'on va les faire évoluer, on vient de se donner on vient de réduire grandement le risque que ça ne fonctionne pas en bout de ligne. Puis j'ajouterais peut-être un petit point aussi qui est au niveau de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Évidemment, là, donc c'est même avant même de choisir la technologie, c'est quoi l'objectif de ma transformation? Parce qu'il n'y a pas une transformation qui a nécessairement le même objectif. Je pense que ça, c'est un petit peu c'est quelque chose qu'on a à ajuster dans notre langage. Et quand on parle de transformation, on dit « OK, je fais une transformation numérique. » OK, mais une transformation numérique, c'est un moyen. C'est un moyen de faire d'autres choses. C'est un moyen de devenir plus efficace. C'est un moyen peut-être effectivement d'être plus attrayant. Il y a un objectif, il faut être capable de le garder en vue. Après ça, de choisir ses bonnes technologies. Puis après ça, ben, en fait, ça commence même en amont et de bien accompagner ces gens à travers ces changements-là.
Mm-hmm. Marc-André, quand t'entends Olivier, y a-tu des moments dans votre transformation, dans l'histoire que vous avez vécue où tu t'es dit « Oh, boy, là, ça se passe pas comme prévu. » Le plan initial, on n'est pas tout à fait en train de le suivre. Y a-tu eu des moments dans ta transformation où tu as eu des petites sueurs froides?
Tout le temps. Puis c'est pas une petite. Écoute, quand on a présenté le plan, je me rappelle la réaction des gens. Nous, au niveau, on va dire,
de
la direction, on parle de processus, on parle de rentabilité, on parle d'amélioration continue, là, des termes des fois qui sont pas vendeurs quand on parle aux employés. Écoute, tantôt tu as parlé là, de la petite anecdote des gens en forêt qui allaient avec le calepin. J'ai peut-être omis de dire qu'on leur avait mis un nouvel appareil entre les mains, un Blackview. Au départ, eux étaient habitués de prendre ça encore, puis là, on a eu des... Ouais, mais là, tu sais, si le Blackview brise les données, tu sais, papier, c'est sûr qu'ils vont se rendre papier, là, tu sais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'arguments, il y avait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver une façon de revenir à l'ancienne façon. Parce que, en tout cas, Olivier, sûrement que tu le vis, là, mais c'est souvent l'impression de faire 2-3 pas en arrière, peut-être le premier mois, 2 mois d'un nouveau processus, mais une fois qu'il est bien assimilé, qu'il est implanté, on passe à un autre, puis, tu sais, je pense que, tu sais, c'est comme ça qu'on y arrive. Il y a des choses, tu sais, comme tantôt, j'ai parlé du drone, il n'est pas encore opérationnel. Tu sais, nous autres, tout ce qu'on fait, on les fait en parallèle. Donc, on s'assure que notre ancienne technologie qu'on sait qui marche, peut-être le processus est déficient selon nous, mais avant d'implanter la nouvelle technologie, on s'assure tout de même que ça va bien fonctionner. Là, parce que moi, il y a des choses que je vois des fois dans mon bureau. T'sais, moi, j'aime dire, je suis un forestier administratif à cravate, même si je n'en porte pas souvent, mais moi, ma vision de l'opération versus vraiment ce qui se passe en forêt, faut être en mesure de concilier les intérêts de chacune des parties prenantes de l'organisation. Puis je pense que ça, c'est un gage de réussite là, pour l'évolution numérique. Là.
Olivier, je retourne.
Marc-André, j'ai quasiment le goût de t'envoyer une offre d'emploi.
Il fait bien ça, hein?
C'est incroyable. Si jamais tu veux te lancer en consultation, là, envoie-moi un message.
C'est extraordinaire. Olivier, tu nous as dit quelque chose en pré-entrevue que j'ai beaucoup apprécié. Tu as dit la technologie est un meilleur guide pour définir une stratégie d'entreprise que d'autres facteurs qu'on pense plus sécuritaires comme l'économie ou même la politique. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, en fait, c'est une étude qui a été faite par Accenture dernièrement qui a démontré effectivement que les dirigeants, les dirigeantes à travers le monde, à 98% évaluaient que la technologie était effectivement meilleur guide pour définir sa stratégie que les autres secteurs. Et je pense que, et quand je l'ai lu, j'ai trouvé que ça faisait énormément de sens parce que tu sais, on le sait, là, on vit dans un monde qui a jamais, ben, pas qui, en tout cas, de notre génération, si on veut, là, qui a jamais été aussi instable. Tu sais, au niveau politique, au niveau social, au niveau environnemental, tout bouge. On sort d'une pandémie, il y a de l'inflation, tu sais, qui est couplée avec une récession. Bref, c'est vraiment assez particulier. Donc, c'est très difficile avec une guerre, se dire, ben, OK, d'avoir des éléments sur lesquels qui vont être stables, sur lesquels on est capable de s'aligner quand on prévoit sur 2, 3, 4, 5 ans. Alors que la technologie, elle, on sait quand même où est-ce que ça s'en va. On comprend les avancées que l'intelligence artificielle va avoir. Et on voit aussi, on voit les grandes organisations technologiques, quelles orientations est-ce qu'ils sont en train de prendre. Donc, quand on regarde ça, on peut extrapoler quels vont être les impacts sur notre industrie et quels vont être les impacts sur notre organisation. Et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est devenu réellement un ancrage pour définir sa stratégie.
C'est vrai que c'est un petit peu plus fiable que la politique à bien des égards. Marc-André, tu as ajouté quelque chose?
Est-ce que tu crois que ça a amené un nouveau risque pour les entités? Tu sais, moi, je regarde, il y a 6 ans, quand je renouvelais la police d'assurance de la coopérative, ils ne me parlaient pas de contrôle, de cyberattaque, puis tout, c'est de rameçonnage, puis je n'ai pas tous les termes techniques, mais il me semble qu'on en entend plus parler maintenant, là.
Ben effectivement, puis c'est un super bon point que tu amènes là. Tu sais, maintenant, les assureurs offrent des politiques d'assurance très solides pour prévenir les organisations contre la cybersécurité. Donc, on le voit, mais je pense pas qu'il y a un produit qui peut nous prévenir contre les mauvaises décisions des politiciens ou les guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis. Mais la technologie, ben il y a cet élément-là. Effectivement, les risques sont là, les risques technologiques sont énormes.
Ouais, à condition que la transformation numérique ait été bien faite puis qu'elle soit un succès et qu'on ne tombe pas dans les pièges dont on a parlé un petit peu plus tôt. Marc-André, j'aimerais ça vous entendre sur vos prochains projets. Là, tu dis que le drone, ça s'en vient, c'est un projet parallèle. Y en a-t-il d'autres de ces innovations-là auxquelles vous avez pensé que vous allez déployer éventuellement?
Il y en a plusieurs. Puis il y a des choses que je ne peux pas encore énumérer par rapport à on est en développement sur
un petit scoop, ça ne tente pas?
Ben, je vais en donner un, moi, que je trouve quand même particulier. Là, peut-être un an à peine, là, FPI Innovation, une firme de recherche, là, dans le fond, paragouvernementale, là, a fait un convoi inspiré de l'armée. Nous, on a une grande pénurie là, de camionneurs dans notre secteur d'activité. La chaîne d'approvisionnement est déficiente présentement. Puis celle-là, je l'ai trouvée bonne. C'est un camion en avant avec deux autres qui se suivent là, géolocalisés. Puis écoute, ils ont fait deux tests à notre usine à Rivière-Aura dont on est partenaire. Puis celle-là, écoute, je ne croyais même pas voir ça de mon vivant. Là, on n'est pas avec des lignes toutes balisées, on est en forêt. Celle-là, je me suis dit, wow, the sky's the limit. Là.
Juste comprendre, là, le camion se conduit tout seul.
Le premier en avant, lui, c'est un pilote.
Puis mais les deux autres en arrière?
Ils se suivent. Puis ça, c'est une technologie qui est inspirée de l'armée. De l'armée canadienne. Chez Résolu, notre partenaire au Lac-Saint-Jean, on a développé un accès Internet encore inspiré des forces armées canadiennes. Écoute, je ne suis pas un spécialiste comme Olivier, mais je crois que l'armée aurait quand même quelques années d'avance là, sur va dire, les entreprises. Là, on va parler comme dans notre secteur d'activité. Là. Mmh.
Ben, définitivement, c'est sûr que l'armée investit énormément dans les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui partent effectivement des budgets de défense. Puis cet exemple-là, il est super bon dans les mines aussi. Il y a énormément les mines dans les champs, dans l'agro-agriculture. Il y a énormément de technologies, beaucoup plus qu'on peut penser. Même une connexion entre les tracteurs qu'on peut voir et les gens. Pour encore une fois, tu parlais, Marc-André, de la santé sécurité. Donc, pour s'assurer qu'un camion va pas reculer sur quelqu'un. Puis j'avais vu une autre statistique aussi. John Deere engage maintenant plus de développeurs que de mécaniciens.
Et donc, c'est pour dire
la quantité de technologie qu'il y a dans ces appareils-là.
Puis bon. La nouvelle machine, c'est des gens, comme tu mentionnes, qui arrivent avec leur ordinateur, qui sont en mesure d'aller dans le système, de bien voir où la problématique, ensuite la cibler, mais ça part quand même de l'informatique. Écoute, moi, dans le fond, Laurent, où est-ce que je voudrais amener l'organisation, là, on va dire à court terme, là, dans le processus technologique, c'est certain que la connectivité Internet, la journée, moi, je veux avoir mes données en temps opportun. Il y a beaucoup d'argent qui se dépense en forêt, les opérations, beaucoup de gens, on fait travailler 175 personnes, ça va vite. Puis, tu sais, quand je me rappelle, là, peut-être un an ou deux, on avait nos données juste à la fin de la semaine. Une semaine d'opération, c'est peut-être un demi-million. Tu sais, ça va vite. Donc, nous, faut être en mesure d'avoir des données en temps opportun, avoir une banque de données, puis s'assurer de la fiabilité des données, puis ensuite se baser sur du factuel. Là. Je te dirais, c'est la vision à court terme. Là.
Est-ce que l'Internet se rend partout sur votre territoire maintenant?
Non. Dès qu'on va quitter, là, je dirais là, peut-être 30 km au nord là, de la ville, puis je dis 30, peut-être 15 km, là, on n'a plus accès. Là, donc, c'est quand même ça, je crois. Mais là, tu sais, il y a des tours qui se construisent. On a des communautés amérindiennes aussi où ce que eux vont avoir accès à Internet. Donc, on croit là, que dans les prochaines années, on va être en mesure là, de développer là, la couverture là, dans notre région. Là.
Bien, je pensais qu'on avait un expert sur la ligne qui était Olivier, mais on en a deux. Marc-André, félicitations pour cette transformation que vous avez faite là. Puis si jamais tu cherches un job, bien, écoute, la porte semble ouverte en consultation. Félicitations. Semble-t-il que, écoute, si tu es rendu un expert, c'est que là, ça s'est bien passé.
Parfait. Puis Olivier, je te renvoie, écoute, la balle aussi. Là, nous, on engage, là, tu sais, je ne l'ai peut-être pas mentionné dans le processus. Moi, j'ai toujours été accompagné à toutes les étapes, que ce soit le calibrage, j'ai eu des experts. Donc, peut-être qu'on va avoir l'opportunité de faire affaire ensemble, parce que j'ai bien aimé ton discours également. Là.
Olivier Lacainte, opérateur forestier.
Ben pourquoi pas? Tu sais, ma famille, côté de ma mère, on vient du Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai mon cousin qui est ingénieur forestier. Donc, pourquoi pas?
Merci, messieurs, d'avoir participé à cet épisode-là. Marc-André, bonne chance dans votre transformation. Puis Olivier, ben si jamais on a besoin de conseils, on sait à quelle porte aller cogner. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Très apprécié.
Merci de l'invitation. C'est super agréable.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
À la chronique économique cette semaine, Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins. Bonjour, Jimmy.
Bonjour.
Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, content de te retrouver. On va parler de la santé des immeubles à bureaux, si tu veux bien, santé économique, parce que ça fait quelques mois maintenant que le gouvernement a levé sa recommandation, mettons, officielle de télétravail. Plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail hybride. Est-ce que ça a un impact sur les immeubles à bureaux?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde au niveau du télétravail hybride, quand on regarde, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que la proportion de jours en télétravail s'est stabilisée à 30%. Donc, ça veut dire que la proportion de journées complètement payées, 30%. Avant la pandémie, c'était 5%. Immédiatement après la pandémie, c'était plutôt 60%. Mais là, on semble se stabiliser à ce niveau-là. Puis, l'impact que ça a, c'est que les entreprises, de plus en plus, étant donné qu'elles ont besoin de moins d'espace, réfléchissent à réduire leur empreinte. Donc, il y a, par exemple, une enquête de Colliers qui suggère que les entreprises vont avoir besoin de 50 à 70% de leur capacité actuelle d'ici 3 ans. Donc, effectivement, il y a des impacts, Laurent, parce que, par exemple, il y a une étude académique qui est sur le marché de New York qui estimait qu'il y aurait une perte permanente de 40 % de la valeur des immeubles.
Aïe, aïe, aïe.
Il va y avoir beaucoup de bureaux vides.
En même temps, c'est un peu paradoxal, Jimmy, parce qu'on manque de logements. Est-ce qu'il n'y a pas là une occasion de convertir tous ces espaces en immeuble à logement dont on a vraiment besoin?
Bien, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Hein? C'est parce que il y a une pénurie dans le secteur du logement, effectivement. On a des cibles d'immigration très agressives au Canada. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Donc, si le surplus de locaux pour des bureaux pouvait être converti en logement, bien, tout le monde y gagnerait. Sauf que en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Premièrement, les structures de bureaux, ça a été conçu puis configuré pour répondre à des besoins particuliers d'entreprise et non pas des unités résidentielles. Mm-hmm. On pense à, par exemple, l'emplacement des ascenseurs, l'architecture de la plomberie, les appareils de chauffage, la climatisation. Tout ça, c'est fait en fonction de besoins qui sont très différents entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial. La deuxième chose, puis ça, c'est vrai dans les immeubles les plus anciens, bien, ça prend des rénovations assez exhaustives pour respecter les normes modernes en matière de ventilation, en matière d'efficacité énergétique, sécurité incendie, ces choses-là. Donc, ça demande des coûts importants. Et tout ça, alors que les immeubles à bureaux sont dans des endroits qui sont très dispendieux. Les terrains, la valeur des terrains est très élevée. Mm-hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on vendait des unités ou on louait des unités, ben il faudrait les vendre très cher.
C'est ça, ce ne sera pas du logement abordable.
Exactement, ce ne sera pas du logement abordable. Or, c'est ça qu'on a besoin, c'est du logement abordable en ce moment.
Et si on retourne dans la perspective de ceux qui possèdent ces grands parcs immobiliers-là puis ces tours à bureaux-là, bon, ils t'écoutent en ce moment puis ils se disent « OK, il faut revoir la stratégie, là, j'imagine. »
Ben, c'est ça qui est particulier parce que On parle des effets des hausses de taux d'intérêt. On parle beaucoup de l'effet sur les paiements d'intérêt, ces choses-là pour les ménages. Mais ça, c'est un autre impact. C'est que dans les dernières années, quand les taux d'intérêt étaient très bas, plusieurs fonds d'investissement étaient incités à se tourner vers des catégories d'actifs réels, immobilières, pour aller chercher du rendement qu'on n'était plus capable d'obtenir, par exemple, avec des obligations gouvernementales. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a augmenté notre exposition à cette catégorie d'actifs-là. Ça a été payant. Sauf que là, maintenant, c'est tout un modèle d'affaires qui est bouleversé parce que l'endettement qui a été utilisé pour faire ces investissements-là, ben, la dette coûte plus cher à financer. Puis, la valeur de ces actifs-là diminue. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans l'immobilier, ça prend plus de temps. Donc, c'est pas, par exemple, comme investir en bourse où est-ce qu'on sait tout de suite demain matin si notre portefeuille a changé. Dans ce cas-là, c'est des évaluations, ça prend beaucoup de temps à s'effectuer. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas que c'est une crise qui va être ponctuelle, mais c'est quelque chose quand même qui va s'étirer dans le temps. Et il va y avoir des pertes et il va y avoir, on va en entendre parler beaucoup. Et ça peut s'étirer même sur 5, voire 10 ans. Là. Donc, je pense que ça va quand même demander une intervention gouvernementale, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on n'ait pas vraiment, on ne soit pas pris avec un parc dans les centres-villes, là, fantômes là, qui seraient vraiment néfastes pour la santé des centres-villes à Montréal, à Québec, en Amérique du Nord, finalement.
Merci, Jimmy.
Au plaisir.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, sur Apple Podcasts et partout où vous écoutez vos balados. Je m'appelle Laurent Therrien. Encore merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.